Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 16e numéro du quart d'heure corésien. Au menu de cette semaine, la réforme des retraites qui continue d'alimenter les tensions dans la rue d'une part, mais aussi entre les syndicats et le gouvernement d'autre part. Et tout ça inquiète le député de la Corrèze, Francis Dubois, vous l'entendrez. Dans près de 500 jours maintenant, la France vivra au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors si la Corrèze ne verra aucune compétition cette année-là, le département quand même se prépare à vivre ces Jeux pleinement. Enfin, ils sont jeunes, ils sont surconnectés, confrontés à toutes les infos possibles et même inimaginables. Comment les enfants et les ados s'informent alors que la semaine de la presse à l'école s'achève? Nous leur avons tendu le micro et posé la question. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu? C'est parti! La réforme des retraites suscite toujours autant de tensions, à tel point que dans la rue, et pour la première fois à Tulle depuis très longtemps, les policiers ont été obligés de tirer des grenades de gaz lacrymogène. D'ailleurs, jeudi dernier, trois hommes étaient invités à comparaître pour des faits de violence et d'outrage sur des personnes dépositaires de l'ordre public. Un troisième pour avoir fabriqué puis lancé un cocktail Molotov. Dans la première affaire, un homme de 38 ans qui a reconnu les faits à l'audience, des faits qu'il a lui-même qualifiés de totalement stupides, a été condamné à payer une amende de 1000 euros. Le second homme, lui, a été relaxé de tous les faits reprochés. Le tribunal ne l'a finalement pas reconnu sur les vidéos jointes au dossier. Enfin, le jeune homme de tout juste 20 ans poursuivi pour avoir jeté un cocktail Molotov mardi dernier vers les policiers à Tulle a lui été condamné et est en prison, condamné à 3 mois de prison ferme et 1 an de prison avec sursis probatoire. Un jeune homme perdu à l'audience et qui n'a à aucun moment semblé se rendre compte de la dangerosité d'un cocktail Molotov pour la vie d'un être humain. Ces violences vues à Tulle inquiètent partout en Corrèze. Thierry Rousseau est le secrétaire général de l'Union locale de la CGT de Brive. Un ras-le-bol entendu aussi par Arnaud Gourdon, secrétaire de la CFDT en Corrèze. Pour lui, le gouvernement doit renouer le dialogue avec l'intersyndical. Parce que la CFDT en est persuadée. Chez les cadres aussi, la CFE-CGC espère qu'un dialogue puisse enfin se renouer, mais à une condition, estime Christian Pignol. Pour lui, si la démocratie reste vivante en France, elle lui semble bien malade. Si ce syndicaliste estime que la démocratie ne va pas bien, il est un autre Corrézien qui fait le même constat. C'est le député LR de la circonscription de Tulle-Ussel, Francis Dubois.
La démocratie va mal. À partir du moment, moi, quand j'étais élu parlementaire, j'y allais avec beaucoup d'envie pour faire que les lois soient rendues applicables à l'ensemble de nos territoires, parce que nous avons des différences entre les territoires ruraux et urbains, mais qu'on puisse appliquer sereinement les choses et faire avancer notre pays. Et aujourd'hui, sur cette réforme des retraites, le Parlement ne peut pas amender, amender, c'est être force de proposition et constructif, ne peut pas voter. Nous avons jamais voté, il faudrait le vérifier, mais je pense que c'est la première fois que le Parlement, l'Assemblée nationale ne vote pas sur une réforme de société, même si on a voulu nous la transformer en projet de loi des finances. Et le véhicule législatif choisi, je le dis depuis le départ, était bien conçu pour que nous ne votions pas et que la réforme passe, que cette réforme rassure les marchés financiers. Le président de la République l'a dit.
Selon le député corrézien qui reste favorable à une réforme des retraites, lancer ce projet en janvier dernier n'était vraiment pas le bon moment.
Il faut une réforme et quand on veut faire une réforme de société juste et demander à son peuple de travailler, de faire un effort, je l'ai dit depuis le départ, c'était le très 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 mauvais moment et je ne bégayais pas à ces moments d'inflation, après 2 ans de pandémie, après l'ouverture en février 2022 de la guerre en Ukraine, avec une inflation, faute à la résilience des produits d'approvisionnement, une inflation sans précédent, qui va même jusqu'à impacter les salaires, puisque les salaires ne peuvent pas suivre l'inflation. Donc c'était vraiment pas le moment de demander aux classes moyennes une fiscalité supplémentaire et un travail supplémentaire, alors qu'aujourd'hui, leur rémunération, maintenant, il n'y a même plus de travailler plus pour gagner plus, c'est travailler beaucoup plus pour gagner moins et s'en sortir moins à la fin du mois.
Tous ces éléments lui font craindre, au final, un repli démocratique, en clair, que les citoyens finissent par bouder définitivement les urnes.
C'est extrêmement inquiétant. Dans mes convictions de chiracien, de droite chiracienne et humaniste, je m'oppose aux extrêmes et à la radicalité. On voit bien que de se conduire, je le dis, j'ai pas peur de le dire, le président de la République, pour moi, se conduit en autocrate. Et c'est la seule façon, soit qu'il y ait de plus en plus d'abstention, et quand il y a de plus en plus d'abstention, eh bien, qui retrouve son compte, c'est les extrêmes. Et donc, au bout d'un moment, à force de jouer avec le feu, eh ben on finit par se brûler. Et moi, j'ai grand peur pour... Moi, je souhaite pour la France, pour nos territoires, mais qu'on puisse vivre de façon extrêmement apaisée pour nos enfants, petits-enfants, dans une société... Je ne suis pas dans le monde des bisounours, mais avec le moins de violence possible, j'allais dire sans violence.
Désormais, la balle semble être de nouveau dans le camp du gouvernement, puisque la première ministre Elisabeth Borne devrait rencontrer ce lundi les représentants syndicaux à l'hôtel de Matignon.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Dans 500 jours, la France et Paris particulièrement seront le centre du monde sportif parce que les Jeux Olympiques sont enfin de retour dans l'Hexagone. Mercredi dernier, un comité de pilotage a même été lancé depuis la préfecture de Tulle. Ce comité Jeux Olympiques en Corrèze a pour objectif de faire vivre cet événement dans le département et pour y parvenir, un village olympique proposant de découvrir de nombreuses disciplines va parcourir la Corrèze. Emmanuelle Roux est la directrice du comité olympique corrézien.
Il va tourner jusqu'en 2024 et après, hein, parce que l'idée c'est de continuer même après l'édition des Jeux. Il est déjà réservé par beaucoup de collectivités. Tout l'été, il sera sur Sédière, il sera dans les collectivités labellisées Terre de Jeux. Et il est mobilisé dès la semaine prochaine dans le cadre de la semaine olympique.
Et pour le comité, l'enjeu est simple.
Faire découvrir le sport et à tous les Corréziens. Donc ceux qui sont éloignés, on est un département rural, on n'a pas toujours accès aux infrastructures sportives. Et donc l'idée, c'est vraiment d'amener l'activité au plus près des gens. C'est vraiment l'objectif et l'ensemble des acteurs sportifs du département sont dans cet état d'esprit, donc on en est super content.
Reste que si aucune discipline ne se déroulera en Corrèze durant les Jeux, des délégations pourraient passer l'été 2024 dans le département. Pour l'heure, 5 sites sont toujours labellisés Terre de Jeux, l'espace Mille Sources de Bugeat, le Stadium de Brive, la piscine de Brive aussi, mais encore le plan d'eau du lac du Causse et enfin les haras nationaux de Pompadour. Mais pour pouvoir vivre les Jeux de l'intérieur, Mélanie Mulder, 28 ans, elle a choisi de candidater pour devenir bénévole sur les JO de Paris 2024.
Je trouve que le bénévolat, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui disent que voilà, c'est pas normal d'être bénévole, de pas être payé pour quelque chose qui va durer quand même plusieurs semaines. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important de cultiver, enfin, cultiver le bénévolat. Donc c'est pour ça que j'avais cette envie-là de participer à cet événement.
Et pour cette athlète de course à pied, le sport prend une grande place dans sa vie.
Je suis moi-même sportive, j'aime beaucoup le milieu sportif. Je suis également enseignante, donc je fais du sport au quotidien avec les enfants et je trouve que c'est des valeurs importantes à transmettre de par mon métier également aussi.
Près de 45 000 bénévoles sont recherchés par le comité olympique en France, comité qui, en Corrèze en tout cas, comprend que les candidatures soient pour l'heure encore très peu nombreuses.
Le chiffre est déjà un peu baissé parce qu'ils ont mobilisé par ailleurs. Enfin, les difficultés de recrutement arrivent parce que les gens, effectivement, sont effrayés par l'hébergement et les transports aussi.
Et aujourd'hui, 28 Corréziens candidats au bénévolat ont d'ores et déjà été présélectionnés. Ils sauront d'ici quelques mois si eux aussi pourront vivre cet événement planétaire aux côtés des athlètes.
Le quart d'heure corrézien est à retrouver aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
L'information, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Comment elle est sûre? Et si elle me semble sûre, comment savoir que l'on n'est pas en train de me tromper? Voilà un petit peu les questions que se sont posées au cours de la semaine les enfants qui ont participé à la semaine de la presse à l'école. Mais pour tenter de comprendre comment ils s'informent, je suis allé à l'atelier Radio Impro, un atelier animé par Philippe Dauteville chaque semaine à Brive à la Radio House, un atelier au cours duquel j'ai pu rencontrer Anouk. Elle a 11 ans et elle est en CM2 et voici comment elle s'informe.
Moi j'informe grâce à mes parents en fait, quand ils m'en parlent et voilà, sinon moi je passe pas trop mon temps à écouter les infos. Enfin après de temps en temps quand à la radio, j'écoute la radio en même temps que mes parents, mais sinon c'est plutôt mes parents qui me disent tout.
Néanmoins, Anouk sait qu'il existe, adapté à son âge, des magazines qui lui permettent de comprendre ce qu'il se passe dans le monde.
L'année dernière, j'étais abonnée au journal des enfants et c'était comme un journal mais pour les enfants, mais ça disait les infos, ça disait tout en fait. Il disait des choses même qui sont pas d'infos. Par exemple, il disait que des châteaux étaient créés quelque part et il nous expliquait comment ça se crée, tout ça. C'était même un peu un podcast, mais écrit.
Et de son propre aveu, voici ce que ce petit magazine lui permet.
En grandissant, je pense, j'aime de plus en plus savoir ce qui se passe autour de moi. J'aime bien de plus en plus apprendre les informations, à m'enrichir de ce qui se passe dans le monde.
Maddy, elle, a 14 ans, elle est en 3e. Et pour elle, c'est sur son portable ou son ordi que l'information lui parvient.
C'est surtout en fait avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop de journaux ou je n'écoute pas trop la radio. Il y a un TikToker sur TikTok. C'est Hugo Décrypte. Et en fait, tous les jours, il poste des vidéos en expliquant ce qui s'est passé dans la journée en une minute. Donc c'est comme ça qu'on sait à peu près ce qui se passe, quoi.
Reste à savoir comment elle fait confiance ou non à l'information qu'elle parvient à capter.
En fait, je pense que c'est surtout parce qu'on voit d'autres vidéos qui confirment ce qu'il dit aussi. Il y a plein de vidéos sur le même sujet et du coup, beaucoup de personnes le disent, forcément on va y croire. Je réfléchis comme ça. C'est si plusieurs personnes vont le dire, pourquoi ce serait faux ?
En tentant de multiplier les sources, elle parvient à se forger une idée. Mais est-ce que l'algorithme qui observe ses interactions quotidiennes avec certains domaines comme le sport, la culture, la politique, ne la fait pas passer à côté d'une info ?
En fait, s'il y a un truc que je veux voir, je vais juste aller dans recherche, le taper et je vais en liker une vidéo, ce qui va faire que ça va mettre à jour l'algorithme et ça va m'en proposer plus tard parce que j'en ai liké une vidéo qui parle de ça. Ou même des fois, ça, sans faire de recherche, ça apparaît, ça m'intéresse, je like et pareil, ça revient dans mes pour toi.
Reste à savoir maintenant comment elle parvient à ne pas se faire manipuler par certains influenceurs prêts à tout pour pouvoir diffuser de fausses infos.
Si je m'en rends compte, je vais plus liker, je vais signaler ce genre de vidéos parce que j'aime pas en fait. Et où je vais bloquer les personnes qui font ce genre de choses. Donc oui, forcément, si j'en like une sans faire exprès, et même après j'enlève mon like, ça va quand même, enfin dans l'algorithme, ils vont quand même enregistrer le like, même si je l'ai enlevé. Donc forcément, ça va m'en proposer et ça, c'est pas bien.
Force est de constater qu'en France, les médias classiques comme la radio, la télé et la presse écrite perdent chaque année de plus en plus d'auditeurs, téléspectateurs et de lecteurs. Des personnes qui parfois se tournent vers des chaînes d'infos sur les plateformes à l'instar de YouTube ou autres, mais des personnes aussi qui volontairement décident aussi de couper le poste face à des informations de plus en plus nombreuses mais aussi de plus en plus anxiogène. C'est la fin de ce 16e numéro du Quart d'heure corrézien, une émission entièrement construite en Corrèze et avec des informations corréziennes. Je vous souhaite une très bonne journée sur nos ondes et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro 100% corrézien. D'ici là, multipliez les sources et restez curieux.
Vous venez d'entendre le Quart d'heure corrézien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.